Est-ce que t'as vu la chanson, la reprise de Delpech par un député Renaissance pour ses vœux?
Non, j'ai pas vu.
Si on manquait de quoi que ce soit, il y a toujours le 49-3 qu'Elisabeth peut dégainer. On ne veut pas en arriver là, l'opposition fait tout pour ça, et la majo doit avancer.
Mais c'est qui ce mec?
C'est Carl Olive.
Pourquoi tu le dis comme ça?
Bah parce que Olive, c'est peut-être un truc régional aussi, Olive. Bon alors les manifs, c'est quoi ce travail là? Tout le monde n'est pas en manif?
Attends, ça me dit un truc, c'est intro.
Bon alors la grève, c'est quoi ce travail là? Tout le monde n'est pas en grève? Non, en octobre, je parlais des grèves.
Bon, ça a pas trop bien marché cet appel à la grève, hein.
Bah, ça dépend. Les contrôleurs SNCF, ils ont fait comme j'ai dit.
Ouais, c'est vrai, une belle grève de Noël.
On va revenir sur cette grève, parce qu'apparemment c'était pas clair pour tout le monde, et on va commencer par un petit décryptage.
Les syndicats font grève depuis début décembre, car ils réclament principalement une augmentation de salaire face à l'augmentation des prix.
Alors, c'est pas exactement ça, hein. Je vais me permettre d'apporter quelques petites précisions.
Alors toi, tu décryptes, Hugo décrypte maintenant. T'aimerais que lui vienne ouvrir nos guillemets.
Mais je fais ce que je veux, si je veux, je check les news de Check News, j'arrête les images de Schneiderman, je touche au poste de Cyril Hanouna, je fais ce que je veux.
Bref, qu'est-ce qui va pas dans ce décryptage? Bah c'est que là, Hugo, il nous parle des syndicats. Alors que justement, ce qui est intéressant dans le mouvement des contrôleurs SNCF, c'est que ça a été lancé par un collectif informel, en dehors des syndicats. À la base, le truc, c'est une page Facebook, comme les Gilets jaunes.
Sauf que les Gilets jaunes, ils faisaient leur manif le week-end. Il y avait qu'à envoyer les flics et attendre que ça s'essouffle.
Mais ce n'est pas ce qu'a fait le collectif national ASCT, Agents Service Commercial Train, qui a pris l'initiative d'organiser trois grèves, dont une particulièrement visible et gênante pendant la période de Noël.
Un train supprimé, et c'est tout le week-end de Noël de Martine qui est annulé. Impossible pour elle de se rendre à Arcachon auprès des siens.
J'allais voir une de mes petites nièces. Bon, eh bien, on sera pas là avec elle. On va lui manquer.
Bah, fallait pas voter Macron si tu voulais faire tes paris Arcachon en TGV tranquillou sans grève. Hein? Parce que, hé, hey, si tu l'aimes bien, Macron, il y a les bus Macron. Allez-y, 8 heures de Flixbus pour mamie.
Et faut bien penser à faire pipi avant de partir. Parce qu'avec leur pause sur les aires d'autoroute, quand c'est fini, on n'attend pas les gens, le bus il part. Hein.
Ouais, puis le billet, il est à 35 balles, hein, donc le chauffeur, il a pas de régime spécial, il est intérimaire, il en a rien à foutre, il te laisse là. Hein.
Les contrôleurs de la SNCF, avec cette grève anti-Noël, eh ben finalement, ils ont eu gain de cause. Dès le 22 décembre, ils ont pu annuler leur mouvement du week-end suivant, celui du 31.
Donc si on s'y prend bien, la grève, ça marche. Ça paraît compliqué de faire reculer Macron. Par contre, faire reculer votre patron chez vous, vous pouvez le faire.
C'est possible si vous bousculez les syndicats et que vous essayez de trouver autre chose que les traditionnelles journées d'action et les défilés un peu plan-plan du jeudi en début d'après-midi.
Puis là, ça y est, c'est notre moment. On a passé les fêtes, il fait plutôt doux pour la saison, et c'est la réforme des retraites. C'est notre coupe du monde à nous, ça, hein. C'est une fois tous les 4 ans, il faut pas se louper.
Et c'est pas le mois de janvier qui risque d'être très très sombre. Ça pourrait être tout premier semestre, avec des manifestations à répétition. Et c'est ce que redoute le gouvernement. C'est pour ça que ils ont intérêt à bien calculer leur affaire.
Alors lui, c'est Yves Tréhard du Figaro. Il dit que ça va être très très sombre. Mais quand lui, il est inquiet, nous, ça veut dire qu'on a des raisons d'être optimistes.
Ouais, il s'inquiète un max, ça c'est dans l'air. Écoutez le cadrage de la journaliste Caroline Roux.
On a choisi d'intituler cette émission « Janvier noir ». Est-ce que le président va pouvoir échapper à une forte contestation sociale contre la réforme des retraites?
Et là, c'est beau parce qu'on sent toute son empathie pour notre président. C'est dans la manière même de poser la question. Est-ce qu'il va s'en sortir, le pauvre?
Oui, alors qu'elle aurait pu poser la question du point de vue des salariés. Est-ce que eux, les salariés, vont s'en sortir face à cette réforme des retraites injuste et brutale?
Et Caroline Roux, sa question, elle la pose à ce gars qui est plus fort que toi. Parce que c'est un expert, il a un costard et il est assez dans l'air.
Si l'on veut garder notre système de retraite par répartition, c'est-à-dire de solidarité entre les générations, c'est un bon système que le monde peut nous envier, qui coûte cher, mais que le monde nous envie, il faut y mettre le prix, c'est-à-dire il faut faire une réforme du système en même temps que faire une réforme des financements.
Ah bah ça valait le coup, ça, bravo l'expertise. Il faut sauver notre système par répartition. Je l'avais jamais entendu, celle-là. Ah, il a deux doigts de nous dire, puisqu'on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps.
Bon, alors c'est qui ce gars? On a zoomé sur son synthé un peu plus tôt, c'est pas pour rien, on va décoder ça ensemble.
Décrypter.
Décrypter, c'est pas juste quand on lit les dépêches AFP?
Alors Bernard Vivier est donc directeur de l'Institut supérieur du travail, hein. Le bandeau nous dit même que c'est un spécialiste du dialogue social. Ça fait bien, ça fait sérieux.
Bon alors, c'est quoi cet IST là? C'est quoi cet institut?
L'institut, c'est un institut.
Alors, on vous a déjà parlé de cet institut, c'était pas sur Mediapart, mais c'était dans notre portrait sur Alain Madelin pour Blast.
Parce que oui, l'IST fait partie du réseau de structures qui gravitent autour de la fameuse centrale de Georges Albertini. Cet ancien collabo, qui a fait de la prison pour ça après la guerre, a fondé en 1948 un institut à l'aide de fonds qui venaient entre autres de la CIA.
Cet institut, surnommé la centrale ou la centrale Albertini, va être une source de renseignements et de documentation pour tous les milieux qui avaient intérêt à lutter contre le communisme et le syndicalisme.
Donc voilà, ce spécialiste du dialogue social, là, son institut, il a été fondé en 69 par Guy Lemonnier, un autre ancien collabo spécialisé dans la chasse aux syndicalistes et aux communistes. Et cet institut a recyclé pas mal de néo-nazis et de brutes de génération Occident, comme Alain Madelin.
Donc lui, comme d'autres, de toute façon, ils font le tour des plateaux télé, payés notamment par des fonds patronaux, pour faire la promotion de toutes les réformes libérales.
Par contre, là, ce qu'il dit, c'est pas dingue, hein. Il dit la même chose que tous les autres bourgeois.
Il faut sauver notre système de retraite par répartition, parce que si on vit plus longtemps, il faut travailler
pour un actif sur plan. Bon, vous connaissez le refrain par cœur, c'est le même depuis 40 ans, donc là, on va s'écouter le Elisabeth Borne remix de 2023.
Ce qu'on veut faire, nous, c'est préserver notre système de retraite par répartition, qui est au cœur de notre modèle social. Un système de retraite par répartition, c'est un système dans lequel les actifs financent les pensions des retraités. On vit de plus en plus longtemps. Donc, le nombre d'actifs rapporté au nombre de retraités ne cesse de baisser. Si on veut préserver notre système de retraite, si on ne veut pas laisser une dette sur le dos des générations futures, si on ne veut pas baisser les pensions, alors il faut progressivement travailler plus longtemps.
Donc en substance, on nous dit, bah voilà, on n'a pas le choix, c'est comme ça.
Ou sinon, peut-être, on pourrait augmenter un peu les cotisations. Comme ça, ça évite aux gens de prendre leur retraite alors qu'ils sont cassés, ils la prennent trop tôt, ils ont une pension incomplète, ou alors carrément de mourir au travail pour les plus pauvres.
Parce qu'on le rappelle, si on prend ne serait-ce que l'âge de 62 ans, comme le montrait ce graphique de Libé, 25% des plus pauvres sont déjà morts. À 65 ans, bien joué, on monte à 30% des pauvres auxquels il n'y a plus à verser de retraite. Et si on prend 67 ans, bingo, là c'est presque 40% des pauvres qui sont morts.
Alors c'est morts prématurés qu'ils se rassurent parce qu'ils ont cotisé quand même toute leur vie, et donc du coup c'est grâce à leur mort que le système peut être à l'équilibre. Et c'est ça qui va payer le billet de train là de Martine à Arcachon.
Alors c'est pas exactement comme ça que ça marche, parce qu'une fois que t'es mort, tu cotises plus.
Ah ! Sinon, autre idée, si tu meurs avant l'âge de la retraite, en fait, tu dois des cotisations quand même, et Elisabeth Borne, elle a le droit d'envoyer des huissiers à ta famille.
Bon, vous voyez, si c'est juste une question de financement, on peut être inventif.
Ouais. Ou alors, on fait comme j'ai dit, on augmente un petit peu les cotisations, et puis,
non.
Pourquoi non ?
Non, parce que non.
D'autres à gauche, Bruno Le Maire, disent qu'il y aurait différentes manières de financer le système de retraite, comme augmenter de 1 ou 2 euros les cotisations. Pourquoi exclure cette piste ?
Parce que nous ne voulons pas augmenter les impôts. Mais c'est vrai que c'est une des autres solutions qui existent. Écartons la solution irresponsable de certains, qui est la politique de l'autruche. On se met la tête sous le sable, on attend que le système coule, et puis une fois qu'il aura coulé, on aura dit « Ah bah désolé, on n'a pas eu le courage ».
Bon voilà, augmenter un peu les cotises, c'est irresponsable. Faire bosser les gens jusqu'à la mort, c'est courageux. Hein, il faut être compétitif.
Il y a clairement une ligne rouge pour nous, c'est de ne pas augmenter le coût du travail.
Et on vous rappelle que le coût du travail, c'est votre salaire à vous.
Y compris les cotisations, hein. Les cotisations, c'est du salaire.
Exactement. Et là, Elisabeth Borne, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut que vous soyez mal payé pour que les entreprises tournent bien. C'est le concept de base.
Et là, ma priorité, vous savez, c'est le plein emploi. C'est que notre pays continue à avoir une économie forte qui permet de créer des emplois, qui permet d'aller vers le plein emploi. Donc non, nous ne voulons pas alourdir les cotisations. Nous ne voulons pas augmenter le coût du travail.
Le gouvernement s'engage dans cette réforme en fait avec deux objectifs. Le premier, c'est en gros travailler plus pour produire plus. Il se dit bah, ça mettra plus de gens sur le marché du travail, ça créera un peu plus de richesse, de PIB. Et puis, donc c'est une réforme du marché du travail. Et puis le deuxième objectif, c'est faire des économies. En fait, le gouvernement, dans sa politique économique, ça Bruno Le Maire le dit depuis des mois, hein, sa stratégie, c'est baisse des prélèvements obligatoires, baisse d'impôts notamment sur les entreprises.
Parce que nous ne voulons pas augmenter les impôts.
Donc ça, ça a déjà coûté une quinzaine de milliards chaque année depuis 2020. Et donc, il s'est engagé, pour pas que ça creuse trop le déficit, en face, à faire des économies sur les dépenses publiques. Donc du côté des fonctionnaires, on est un peu à l'os, il peut plus faire beaucoup d'économies. Et donc la stratégie, c'est de faire des économies massives sur les retraites. Et donc la réforme des retraites, elle vient là. Il faut faire des économies sur les retraites pour équilibrer la baisse des impôts de production. C'est écrit tel quel dans le projet de loi de finances de 2023. C'est écrit comme ça dans les documents transmis à la Commission européenne.
Et pour tenir ses engagements, rembourser la dette Covid, combler le déficit, il n'y a qu'une seule solution. Il faut que vous alliez au boulot.
Allez, faut bosser plus, là. Il faut payer les aides aux entreprises, les baisses d'impôts des riches. Au boulot, rien à foutre de ta dépression.
Alors qu'on sait que d'autres facteurs ont un impact positif et durable sur le bien-être, tels que le temps qu'on passe avec sa famille, avec ses amis, le fait de pouvoir s'adonner à des loisirs, et notamment des loisirs où on fait des choses, on produit des choses, tangibles ou intangibles.
Voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête à chaque fois. Les bourgeois, ils ont besoin de vous pour faire tourner leurs entreprises, pour leur profit.
De toute façon, notre génération et les suivantes, on a entendu que ça. C'est-à-dire qu'il faut travailler plus pour gagner plus, pour consommer plus.
Ben oui, parce que plus on travaille, plus on est digne, hein, et plus on consomme, plus on est heureux, c'est évident.
Mais quand on est orienté sur la consommation, bah notamment, on est incité à travailler plus pour gagner plus. Je trouve que c'est intéressant de se rappeler ce genre de choses au moment où on est en train d'évoquer le recul de l'âge de la retraite, hein, alors que toutes les études sur le sentiment de bonheur nous montrent que l'âge, la tranche d'âge où on est le plus heureux, bah, c'est en gros entre 60 et 70 ans, ou 75 ans. Quoi. Et donc, on risque de grappiller là, des années de bonheur pour remettre les gens au travail. Est-ce qu'il faut produire plus ? Ou est-ce que, finalement, on considère qu'on est déjà à un niveau d'opulence satisfaisant, ben, les gains de richesse qu'on pourra produire dans l'avenir, on les consacre plutôt à réduire le temps qu'on passe à travailler et à produire, pour allouer ce temps sur des activités dont on sait qu'elles apportent un vrai bénéfice aux individus.
Et là, c'est intéressant, parce que ce que nous dit l'économiste Philippe Moiti, c'est qu'il ne faut pas opposer le travail à la paresse. Le temps passé à ne pas mettre en valeur du capital privé peut aussi être un temps de travail libre, de travail domestique, d'éducation ou de soins aux enfants, aux proches, de travail créatif, culturel, sportif, bref, un temps arraché au contrôle de la mise au travail capitaliste.
Et puis pensons à celles et ceux qui savent que dans la mise au travail capitaliste, c'est compliqué de bien faire son taf. On pense aux soignants, par exemple.
Oui, et puis il y a ceux à qui le travail fait du mal, et il y a ceux dont le travail fait du mal à la société, aux autres.
Il y a beaucoup aujourd'hui, par exemple, dans certains secteurs de l'industrie, de salariés qui disent « nous, on veut plus produire », c'est le cas notamment y compris dans l'encadrement, « nous, on veut plus produire n'importe quoi sans savoir les conséquences de notre production, par exemple, sur l'environnement. »
C'est précisément ce qu'ont dit au micro ces élèves d'AgroParisTech lors de leur remise de diplôme en mai 2022.
AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières, trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs, concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées, inventer des labels bonne conscience pour permettre aux cadres de se croire héroïques en mangeant mieux que les autres.
Et nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. L'agro-industrie mène une guerre aux vivants et à la paysannerie partout sur Terre. Nous pensons que l'innovation technologique ou les start-up ne sauveront rien d'autre que le capitalisme.
Et là, c'est intéressant, parce que la question des retraites, elle a aussi des enjeux intergénérationnels. Et les différentes générations, en ce moment, elles communiquent pas bien entre elles.
Vous voyez bien que les jeunes, c'est des doomers, ils croient plus en rien, ils sont là, « Ouais, de toute façon, moi, j'aurai jamais de retraite. De toute façon, dans 10 ans, la planète, ce sera un enfer. Je vais coller ma main sur Yannick Jadot, j'ai plus rien à perdre. »
Donc c'est ça ton imitation de jeune?
Oui, mais en même temps, je les comprends, parce que c'est eux qui vont payer avec leurs cotisations la retraite des vieux qui votent Macron, qui sont en SUV sur la Côte d'Azur.
C'est en substance ce qu'expliquait Marine Tondelier, la secrétaire générale d'Europe Écologie des Verts, dans une interview à Ouest France le 27 décembre dernier.
Il est compliqué de demander aux jeunes générations une solidarité intergénérationnelle sur les retraites, tant qu'il n'y a pas de solidarité intergénérationnelle sur le climat. Je vois pas comment, dans 15 ans, des jeunes accepteront de donner une partie significative de leur salaire pour payer les retraites de celles et ceux qui leur auront laissé une planète à plus 4 degrés.
Une déclaration qui a probablement énervé les boomers, évidemment.
Ah bah moi, je me suis mise à pleurer, hein, carrément.
Mais elle a raison, Tondelier. Il est Tondelier, ces différentes luttes entre elles. Mais on fait comment ?
Bon, on va voir, mais c'est tout l'enjeu. Est-ce que les jeunes vont en avoir rien à foutre des manifs contre la réforme des retraites, ou est-ce qu'au contraire, ils vont s'emparer pleinement de ces questions ?
Parce que vous voyez bien que le gouvernement veut cette réforme pour continuer d'orienter le pays vers davantage de productivisme, de consumérisme. C'est le modèle qui est en jeu pour eux. Les retraites, c'est un terrain de bataille parmi d'autres. Les méga-bassines, c'est un terrain de bataille, l'assurance chômage, les réformes des lycées, de l'université, tout ça, c'est pareil. Et toutes ces batailles, dont la bataille des retraites, il va falloir les mener parce que leur modèle, il nous emmène dans le mur, y compris face à l'urgence climatique. C'est lié tout ça, donc il va falloir se battre, va falloir être mobilisé et créatif, comme les contrôleurs de la SNCF, quitte à déborder un peu des cadres traditionnels.
Hein les jeunes, il faut tout donner là, c'est votre moment. Parce que nous, en plus les jeunes vieux, on compte sur vous les jeunes jeunes. Parce que là, on vit déjà dans le monde de demain, du réchauffement, etc. Mais on vit dans le monde de demain avec la société d'hier. Ça peut pas durer, hein. À lundi, dans 2 semaines.
«
Si vous êtes contre cette réforme des retraites et que vous êtes vous-même un jeune, n'hésitez pas à rejoindre la manifestation du 21 janvier qui est organisée par plusieurs organisations de jeunesse.
Voilà, sinon il y a d'autres manifs et il y aura d'autres manifs. Et si vous êtes pour la réforme des retraites et que vous êtes jeune, n'hésitez pas à faire le SNU. Vous allez peut-être rencontrer Sarah El Haïry.
Quelle chance.